Octave Mirbeau. La belle Madame Levasseur. Chapitre 1. Le fiacre, au petit trot de son cheval blanc qui boitait, traversa la place Saint-Augustin déserte. Comme il enfilait le boulevard Malesherbes, Daniel, qui depuis la gare de Lyon semblait dormir, passa la tête à la portière et demanda « Où allez-vous? Je vous ai dit rue Malesherbes. Vous n'avez donc pas compris ?» Le cocher tourna sur place, grommelant dans son cache-nez. « Pas compris? Pas compris? Pourquoi aussi qu'il dit pas rue une générale fois ?» Et d'un furieux coup de mèche, il jeta sa bête à la montée de l'avenue Portalis, dont le macadam luisait, glacé de givre, entre ses réverbères allumés que le brouillard empaquetait. Presque à chaque pas, le cheval manquait du devant, patinait, parfois s'agenouillait d'un genou, et, relevé, ne bougeait plus, fumant des naseaux, pointant des oreilles, tout le poil hérissé d'un frisson. Alors c'était des cris, des claquements de fouet, des ruades, un vacarme de lutte qui lugubrement déchirait le silence de cette heure du soir apaisée où Paris mange. Daniel n'avait pas refermé la vitre. Cédant à l'attirance qu'ont les lieux déjà vus, à cette espèce de parenté qui lie notre vie aux vies familières des choses, et peut-être loge ses inoffensives dans le meilleur coin de notre cœur, il regardait, fouillait l'ombre et la brume, et, malgré la brume, malgré l'ombre, tant son clairvoyant les yeux qui se souviennent, il retrouvait le square où il avait joué enfant, le chemin qu'il suivait pour aller au collège, en s'arrêtant devant la caserne, la grande rose épanouie au-dessus du porche de l'église, une enseigne d'or sur un balcon. La demi de 8 heures sonna à Saint-Augustin son « bim-boum » espacé, profond, d'une harmonie ancienne et larmoyante. « Oui, je te reconnais, » murmura Daniel. Puis il songea « Je vais les surprendre à table. » Et cette idée l'enveloppa, lui fit chaud, si grelottant qu'il fût, après une nuit et 2 jours de voyage, sous son maigre paletot de romain déshabitué de l'hiver. Il ne se sentait plus le même maintenant qu'il arrivait. Aucune pensée amère ne se mêlait à la pure joie de ce retour impromptu. La cause même, il l'oubliait, n'y voulait plus croire. Un amant, elle ! Il y eut un arrêt brusque, suivi d'un bruit de chute, d'une secousse, et le tapage recommença. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» dit Daniel. « Il n'y a que mon carcan peut plus avancer. »« C'est bon, je descends. » Il ouvrit la portière, paya sa course grassement, reçut sa monnaie en poignée avec une belle insouciance d'artiste, et, ayant happé sa valise sur le siège, il s'enfuit d'un pas allègre le long de l'église. Peu à peu, malgré lui, il ralentissait, s'attardait en des jadis. C'était là qu'enfant, puis jeune homme, il venait à la messe le dimanche, donnant la main, puis le bras à sa mère. On arrivait par la porte de derrière, et l'aumône faite aux vieilles toujours assises dans l'allée, secouant des pièces, leurs doigts se touchaient contre le bénitier en coquille. Comme tout cela était loin, la messe, les vieilles, le bénitier, et cette chère petite main qui lui tendait l'eau bénite et qui jamais ne lui entendrait plus. Elle était morte, la petite main, et remplacée par une autre, une main de sirène, celle-là, qui avait pris le cœur de son père. Arrivé au coin de la rue de Madrid, il hésita avant de sonner. Cette grille si neuve, si dorée, si haute, le déroutait. Et lorsque le pêne claqua hors de la gâche, il n'entra pas tout de suite, rêvant, insensible à l'âpre bise de janvier qui lui fouettait les reins. Le concierge, qui dînait, se leva de table pour crier « Monsieur demande ?» « Monsieur Levasseur, » dit Daniel. L'autre, du fond de son col, répéta « Monsieur Levasseur, » et, dressé sur ses pointes, il le toisait. « Oui, mon père. »« Ah, monsieur et monsieur Daniel, je demande bien pardon à monsieur de ne pas l'avoir remis. Je suis nouveau dans la maison. » Et, subitement rapetissé, l'échine souple, il quitta sa serviette, qu'il avait conservée sous le bras, tira par deux fois le cordon du timbre, puis s'offrit à porter la valise. « Merci, » fit Daniel, « je la montrerai bien. » Mais le portier s'entêtait maintenant, se dépensait en gestes, en paroles. « Que monsieur me donne au moins son porte-manteau, son sac de nuit. Non, c'est inutile. » Dans la cour, il pressa le pas, battant d'un regard effaré la blanche façade agrandie de l'hôtel. Ses tourelles d'angle flanquées de galeries de retour aux baies largement percées et son double escalier de pierre planté de lampadaires de bronze. Tout lui était nouveau, tout le glaçait, l'épeurait, et cette odeur de plâtre frais que gardaient les murs et ce valet de pied en culotte de panne bleue, des aiguillettes panachées de jaune à l'épaule, qui, venu au coup de timbre, attendait, debout et figé sous le toit de verre de la marquise. « Monsieur Désir ? Mon père, il est là ?»« Non, monsieur, » fit le valet en prenant les bagages. « Monsieur se trouve à Gerville. »« Depuis quand ?»« Depuis hier, monsieur. » Et il avait voulu dire « et madame ». Et, bien que ce mot il ne l'eût pas prononcé, la voix tuée tout à coup par une angoisse, souhaitant et craignant à la fois qu'elle fût là, le valet répondit « Madame d'Inanville !»« Ah !» respira Daniel. Et ce « ah !» était presque de la joie. D'une marche plus ferme alors, il pénétra dans le vestibule qu'un lustre flamand éclairait. Mais sa peur s'accrut à la solennité de cette pièce haute, arrondie en coupole, sur laquelle les deux étages de l'hôtel ouvraient comme des loggias garnis de rampes et de balustres. Où était-elle, la petite antichambre d'autrefois, où le meuble de chêne blond, les bougeoirs de porcelaine et les rideaux en drap de soldat, qu'il revoyait si loin qu'il put revoir, et qui, lorsque la fortune venue, on avait, pour un gentilhomme fait de mesures, rue Malesherbes, quitté la rue des Jeuneurs et son entresol, 100 jours, au-dessus des magasins de blanc, s'était à peine embelli de portières et de cache-pots de delphes bleus avec des aralias solides. Son père lui avait bien parlé de « quelques changements » dans ses lettres. Mais ce n'était pas des changements, cela. Il essaya d'accrocher son chapeau derrière la porte aux champignons d'antan, ce grand arbre biscornu où poussaient des frondaisons de paletots et de casquettes. Mais point, la même main sacrilège l'avait chassé, qui avait chassé les aralias et les bougeoirs de porcelaine. À présent, il n'osait plus rester là, gauche et seul et dépaysé, parmi ses meubles neufs, ses lambrequins de peluche, ses statues, ses armures debout à l'entrée d'un hall aperçu dans l'ombre, et ses peintures flambantes, et ses murailles reculées. Il fut du temps à chercher sur le mur la place du baromètre de jadis. Ce vide le choquait douloureusement. Puis, s'étant vu tout entier dans une glace, lui et son complet de voyage, son col mâché, son feutre bossué et sa cravate défaite, un chagrin lui creusa la poitrine, et il aurait pleuré si le valet, cachant un sourire sous ses doigts, ne l'avait sorti de cette crise d'âme en lui disant « Monsieur veut-il venir par ici ?»« Ah, oui, » fit Daniel. Et il le suivit dans l'escalier, pareillement transformé, élargi, avec ses marches tapissées de rouge, sa rampe de bois plein, ses panneaux sculptés et ses négresses porte-lampes en marbre de couleur. Arrivé au premier étage, un souffle épaissi d'asthmatique lui fit lever la tête. c'était Joseph, le valet de chambre, qui, penché, le dévisageait du second, sans le reconnaître. La faute de sa barbe blonde, car à peine ses 19 ans avait-il des moustaches, lorsque, 3 années et quelques mois plus tôt, il était parti dans le feu de son prix de Rome et la haine du remariage de son père. Depuis, il n'était pas revenu. « C'est vous, Joseph ? Bonsoir !» À cette voix, l'autre dévala tout l'étage au galop de ses escarpins vernis. « Tiens, monsieur Daniel, c'en est une affaire ! Monsieur n'est pas indisposé, au moins ?»« Non, merci. Et vous, Joseph, ça va bien ?»« Mais tout doucement. Je remercie bien, monsieur. »« Tout doucement. Monsieur s'en revient comme ça ? Allons, tant mieux. Monsieur a fait un bon voyage ?» Et pendant le trajet du palier au couloir des chambres, ce fut une cascade de questions. Questions discrètes, questions poussives, qui, sans attendre de réponse, s'enjambaient, se bousculaient entre deux haleines. Daniel allait devant d'une allure reposée. Le large sourire, le bavardage de ce gros homme, lui causaient un plaisir délicat qui se fondait en chaleur dans ses veines. Un ancien, lui, contemporain de sa mère. Depuis que Joseph était là, il ne se sentait plus seul, et se dirigeait de mémoire à travers des pièces de service, restées dans leur physionomie d'autrefois. Son enfance se levait de quelques coins retrouvés, lui faisait la conduite, le tirait par la manche, pour lui montrer ici l'entrée d'un cabinet, d'une armoire, qui longtemps, à ses farces de gamin, avait été une cachette. Là, un passage qui menait chez la chérie. « On ne dira toujours pas que monsieur a engraissé, » continua Joseph, « ni qu'il se rapporte une belle mine. Matisse, voilà pourtant ce qu'on s'en va chercher dans ces voleurs de pays. » Et il conclut, « Il n'y a encore que la sienne. Allez, monsieur Daniel. » Puis, le voyant arrêté au seuil d'une porte lourdement drapée de verdure, il prit le trot. « Mais non ! » cria-t-il. « Monsieur n'est plus là. Monsieur ne sait donc point les changements ? C'est le cabinet de toilette de madame. On a mis monsieur dans l'aile 9. Je m'en vais faire voir à monsieur. » Alors il précéda de son allure de bête grasse que le petit battement précipité de son asthme rythmait. De ci, de là, il se retournait avec un geste. « Ça, c'est la nouvelle salle de bain. Ça, la salle de massage et de gymnastique. Monsieur sait que depuis que monsieur s'est mis à engraisser... Ça, la salle d'armes. Monsieur sait que depuis que monsieur s'est mis dans la politique... Et la serre, monsieur ne connaît pas. Et le boudoir. Et le jardin. Et les si... Et les l'autre. Ah, il y en a des changements depuis, madame, ajouta-t-il d'un ton de vieux domestique aigri par l'entrée d'une jeune femme dans la maison. Daniel suivait sans une parole. Ainsi, on l'avait exilé, lui aussi, comme les bougeoirs de porcelaine. Sa chambre, on la lui avait reprise. Cette chambre que la chérie avait choisie, exprès voisine de la sienne, afin de pouvoir mieux veiller sur son précieux sommeil d'enfant, tard venu et pourtant plus aimé. Lorsqu'ils eurent atteint le bout du corridor, qui raccordait l'ancienne construction à la nouvelle, le valet de chambre dit « C'est ici l'appartement de monsieur. » Et il introduisit Daniel, s'excusant « Elle n'est seulement pas faite. » Puis, ayant allumé des bougies, il sortit pour ordonner au valet de pied qui apportait les bagages. « Ernest, va-t'en me chercher une carcelle, et tu préviendras à la cuisine, car monsieur n'a bien sûr pas mangé à cette heure » demanda-t-il en rentrant. « Si !» répondit Daniel, qui piétinait de ci, de là, et ne se sentait plus faim dans cette maison vide. « J'ai dîné au buffet de la gare. »« Comme monsieur voudra !» observa le domestique d'un ton de respect, diminué cette fois d'un peu d'ironie. Il s'agenouilla dans le foyer, releva la trappe et se mit à faire le feu. causant toujours. « C'est bien dommage que M. Daniel ne se fût pas annoncé par un petit mot décrit seulement un jour d'avance. Ça aurait permis d'enlever le plus gros. Et, en guise d'arriver dans un taudion pareil, M. Daniel trouvait sa couverture prête. Sans compter que s'ils avaient su, monsieur ne serait pas allé pour sa mairie à Gerville, et que madame, elle... » Il traîna les dernières syllabes, et d'un air finaud, considéra Daniel qui s'était retourné, une question dans les yeux. Mais le valet de pied rentra, porta la lampe. « Et le bois ?» dit Joseph. « Vous n'avez oublié que le bois. » Comme l'autre lui soutenait qu'il n'en avait pas demandé, il le traita de « feignant ». Prit M. Daniel à témoin, finalement le renvoya quérir un margotin ou deux et une grosse bûche à mettre derrière. La porte fermée, il éclata. « Oh, Matisse, on en a aujourd'hui de la misère avec les domestiques. Tout de la chenillerie, monsieur, tout de la chenillerie. » Et retournant à ses questions, « Comme ça, monsieur a fini là-bas son temps de musique? C'est là que le pape est pris prisonnier? Monsieur Daniel m'excusera si je me mêle de ce qui ne me regarde point, mais pourquoi que les artistes primés, on les y envoie là-bas? C'est-il pour leur y faire voir notre Seigneur le pape en récompense? Oui, non, répondait Daniel, distrait, en se promenant par la chambre. Une grande pièce, gaie, tendue de cretonne, où ses meubles d'autrefois semblaient perdus. Il les distinguait mal à ces places de hasard qu'ils occupaient maintenant. Ce n'étaient plus eux. Le reflet des murs, un jeu d'ombre, en faisaient presque des étrangers. « Monsieur a vu qu'il avait son salon à côté, » dit Joseph, qui, le feu flambant, s'était remis debout. Après une pause, il ajouta, « Monsieur n'a rien besoin avant que je redescende ?»« Merci, Joseph. Non, rien. » »« Et ici, monsieur a vu son cabinet de toilette ? Il n'y a qu'à tourner pour l'eau. Monsieur sait. » »« Bien, oui, merci. » »« Je vais envoyer mademoiselle Amélie pour la couverture, à moins que monsieur ne ressorte. En ce cas, monsieur sait que c'est ce soir le premier bal de l'Élysée. » « L'Élysée ? » murmura Daniel, comme s'il se parlait à lui-même. Et il secoua la tête avec un geste de refusé. « Oui, monsieur, l'Élysée, » reprit Joseph. « Il y a l'invitation du père de monsieur qui ne fait rien. Monsieur ne la voudrait point quelquefois ? Monsieur retrouverait sans faute madame. » Ne recevant pas de réponse, il finit. « Si quelquefois monsieur avait besoin, il n'aurait qu'à me sonner deux coups. Le bouton est là, vers la cheminée, à main droite. Monsieur voit. » Et il resta un grand moment, planté de guingois sur une jambe, se travaillant l'esprit afin de trouver prétexte à prolonger sa causette. Soudain, il se frappa le front. « Oh, Baptiste, le verre d'eau ! Ernest a oublié que le verre d'eau... Je lui avais cependant bien observé. » Et il repartit à la recherche du verre d'eau, qu'il rapporta quelques minutes après, soufflant par petites fois. L'ayant posé sur la commode, il s'excusa longuement de donner à M. Daniel une carafe sans bouchon. C'était ce mal à gauche d'Ernest qu'il avait cassé en l'emplissant. « Tout de la chenillerie, je le dis à monsieur, tout de la chenillerie. Et comme ça, monsieur n'a rien besoin, » répéta-t-il encore. « Si monsieur avait besoin, la sonnette est là, vers la cheminée, à main droite. » Il revint baisser le verre de la lampe et sortit, et poussetant du revers de sa manche un coin de table. Quand le bruit de ses escarpins qui craquaient fut mort dans le couloir, Daniel poussa le verrou, et, seul, à petits pas, il refit le tour de la chambre. Une belle flamme de bois sec papillonnait en languettes claires sur les meubles. Et, l'œil raccoutumé, il les feuilletait un par un, y lisant de souvenirs les années vécues, allant de son lit étroit de palissandre, garni d'un couvre-pied que sa mère avait fait, à son étagère d'enfant pleine de trésors rapportés de la mer ou d'une fête de village. Un galet peint, des coquillages, un caniche de porcelaine, un petit bateau d'ivoire. Et il était si accueillant, si parfumé, si tiède, le sourire de tous ces vieux camarades muets de son jeune temps, que Daniel oubliait le froid de glace de l'entrée, l'odeur de plâtre neuf et les tristesses, les effarements de ce retour par surprise au foyer de famille transformé. Le salon, une main amie l'avait meublé de l'ancien boudoir de sa mère. Ici, son bureau Louis XVI, sa bibliothèque basse en bois de rose, le Pleyel où elle l'avait commencé, un peu partout des paniers, des bronzes, des faïences. Là, sa chauffeuse, dont le dossier de peluche gardait encore le creux de ses reins comme un moule, les portières brodées par elle, la lanterne chinoise à pendeloques et le lion d'or de la pendule. Le grand tableau d'Yvon, enfin, qui la représentait, blanche et blonde, assise dans le jardin de Ville d'Avray, son Daniel en robe sur les genoux. Il demeura un moment sous ce portrait. Puis un gros livre rouge à fermoir d'argent l'attira d'une table où il était posé. Et, s'asseyant, il l'ouvrit d'un coup de pouce. Une odeur d'iris en sortit, qui lui mouilla les yeux. « Encore moi, dit-il, quand j'étais gamin. » Il tourna des pages. C'était lui toujours. Les cheveux longs bouclés, habillés en petite fille. Sous chaque photographie, il y avait une légende d'une écriture mince et pâle, l'écriture de la chérie. Daniel a 15 mois. Daniel a 2 ans, à 3, à 4, à 5, à 6, avec la date. Venaient ensuite des Daniel en culotte, mais très courte, en blouse, mais très bouffante, comme des jupes, pieuse tricherie de maman trompée dans son espoir, et qui, tant qu'elle pouvait, prolongeait sa petite fille, féminisant jusqu'à son nom parfois, Daniel. Le garçon, le vrai, n'apparaissait que ses 10 ans sonnés. Fini les robes désormais, fini les boucles. On était un homme, un monsieur. Et brusquement, cela s'arrêtait. Ensuite, il y avait des feuilles blanches. La place des portraits d'avenir restait vide. Celle qui les emplissait n'étant plus là. La famille suivait. La mère en crinoline. Le père, alors qu'il était blond et n'avait qu'une fleur de ventre. Comme si, pour le compléter, il eût attendu d'être riche. Les grands-parents morts, coiffés de chapeaux cocasses, puis, flanqués de sa femme, l'oncle Eugène, le médecin, en habit, avec toutes ses croix, terrorisant ses filles, 2 premières communiantes chétives, auxquelles il semblait crier son sempiternel « Psst ! Droite, mesdemoiselles !» Daniel se hâtait à présent, claquait les lourdes feuillets l'un sur l'autre, les cueillant du regard à la volée. C'étaient les cousins, les connaissances, un colonel du génie, un abbé, 3 collégiens à la file, un sous-préfet en costume, des jeunes femmes de province qui se pavanaient un livre à la main dans un parc, d'autres en profil perdu, en buste, dégradé, l'œil aux étoiles, un sénateur, la boutonnière fleurie d'un insigne. Vers la fin, il ralentit. À mesure qu'il approchait, le cœur lui sautait dans la poitrine et l'album vacillait entre ses doigts. Même à un moment, il s'arrêta, respira fort, avant de tourner, et, fermant les yeux, il glissa l'index, tâta la page. Mais les petites fenêtres de carton y étaient toutes béantes. « Qu'est-ce donc qu'il est devenu ? » dit-il en jetant le livre sur la table. « Il était là pourtant. » « Ah oui, je sais. » Il venait de se rappeler que le matin de mai, près de 4 ans plus tôt, où son père lui avait annoncé qu'il se remariait, l'ingrat, qu'il épousait Mademoiselle Jeanne Félisas, avait-on idée de cela, Cette si jolie maîtresse qui, pendant un été à Ville-d'Avray, lui avait donné des leçons de piano. Jadis, quand la chérie s'était sentie trop malade. Il avait arraché son portrait de l'album et de rage l'avait déchiqueté, mis en miettes. Alors il eut un grand geste là d'impuissance, comme s'il s'avouait vaincu dans une lutte et cédait à quelque entraînement nécessaire. Et, étant rentré dans sa chambre, il commença de déboucler sa valise si vite et d'une main si tremblante qu'il se piqua aux ardillons des courroies et tâtonna un peu de temps autour de la serrure. Lorsque le frac de soirée fut dehors, avec la cravate blanche, le linge frais et les souliers vernis, Daniel regarda l'heure à la pendule et, matant sa fièvre d'un violent effort de vouloir, il s'habilla lentement, coquettement, se parfuma la barbe et les cheveux. Tout prêt, il ne descendit pas encore, mais usa 10 minutes à se polir les ongles, sans quitter des yeux le cadran. Quand la demie de 9 heures sonna, il sortit. « Monsieur ne désirerait pas des fois une voiture ?» lui demanda le concierge, qui se leva de sa loge comme il passait. Il ne parut pas entendre et continua son chemin. Cette idée, qu'il avait fait revenir, le galopait tout à coup. La revoir, les pieds, fouiller ses yeux, fouiller sa vie, savoir si c'était vrai qu'elle eût un amant, la belle madame Levasseur, la femme de son père. Et pas demain, non, ce soir. Attendre une nuit? Rester toute une nuit seul tête à tête avec cette pensée qu'il portait déjà depuis 3 mortels jours, cette pensée, presque une peur maintenant, grossie de rien, de circonstances, qui, la solitude aidant, prenait une importance de preuve, cela était au-dessus de ses forces. Sur la place, il se consulta. Où était-ce déjà l'Élysée? Que je suis bête, il n'y a qu'à suivre la rue, là, en face. Et tandis qu'il marchait, il remuait des noms dans son souvenir d'exilé. Roquépine, Penthièvre, Miroménil, rayant chaque mot d'un « ce n'est pas ça ». Il essaya de le lire sur une plaque, mais n'y étant point parvenu dans le brouillard qui enveloppait l'ombre d'un pardessus de fumée, il continua de se secouer la mémoire, et ce ne fut qu'en débouchant au faubourg Saint-Honoré qu'il s'écria « D'Astorg, parbleu! C'est drôle comme on oublie !» Avenue Marigny, il y avait déjà double file de voitures. Ça et là, de petits postes de gardiens de la paix, de gardes à cheval, dont les casques et les boutons s'allumaient aux lanternes, enfoncés loin dans le noir sur 2 lignes qui, au bout, paraissait se joindre et balayer d'ombre vive la chaussée. À un signal, le cortège s'ébranlait, s'épanchait avec une rumeur de marée. Les ombres vives marchaient et des tronçons s'en détachaient pour plonger vite dans le trou de lumière de la porte. Puis un nouveau signal commandait l'arrêt et le silence. On n'entendait plus rien que des piaffes, par-ci, par-là, égayés d'un tintin de mort ou d'attelle, le bruit d'un équipage d'excellence qui se hâtait après avoir exhibé son coupe-fil, la voix grasse d'un cocher qui s'impatientait, un coup de fouet, des pétarades, des parlottes, qui sonnaient clair dans l'air gelé. Daniel avait fait halte près du porche, au milieu d'un gros de peuple, qui, formant haies de chaque côté des ifs de gaz, barrait le trottoir. Et à toute voiture qui s'engouffrait, il se penchait en avant. C'était peut-être elle, qui sait? Cette femme enveloppée, dont le profil s'embuait de la vapeur en gouttelettes des glaces. Ou cette autre? Ou cette autre? Il lui semblait que, de la voir seulement, cela lui apprendrait. Quelqu'un dit l'heure devant lui et il pensa « Elle ne peut pas encore arriver puisqu'elle dîne en ville. » Alors, dans un besoin de locomotion et de fatigue, il poussa jusqu'aux Champs-Élysées. Ses angoisses lui étaient revenues. Une fièvre lui battait le sang. Les mêmes angoisses, la même fièvre que, 3 jours auparavant, au théâtre de l'Apollo, à Rome, il avait ressenti en entendant parler de sa belle-mère. C'était dans l'entracte. 2 officiers causaient tout haut des amours de la bellissima signora Levasseur, avec l'attaché militaire hongrois, le comte Aragné, qui, disait-il, avait quitté pour elle l'autre beauté rivale, mais une beauté déjà sur le retour, Madame Street. L'un d'eux, un Bersagliere, qui l'automne d'avant assistait aux manœuvres du 3e corps en France, assurait les avoir rencontrés ensemble à Deauville, puis à Paris, et rien n'était plus certain. Lui crier qu'il en avait menti, c'était le crier à toute la salle. Il l'avait donc guetté après le spectacle, et, lui ayant écrasé le pied comme par mégarde, on en était venu vite au mot, au soufflet. Le lendemain matin, on échangeait via Appia 2 balles inutiles. Il avait quitté Rome aussitôt, sans croire, certes, que le misérable eût dit vrai, mais enfin avec un doute affreux. Oh, ce voyage qu'il revivait à présent, la joie du retour passé, ses affres d'inquiétude et de colère. Un amant, elle qui portait le nom de la chérie, ce pur nom d'honnête femme et de mère de choix. En approchant, une sorte de paix rassurée avait endormi ses méfiances. Coupable, mademoiselle, allons donc. Des apparences de vie lui faisaient des apparences de faute, voilà. Et cependant, il se la rappelait si coquette, si belle. Et un souvenir se leva dans sa pensée, net à croire que c'était d'hier. Un jeudi d'août à Ville-d'Avray. La leçon de piano finie, en attendant l'heure du train, sa mère, afin de faire plaisir à mademoiselle, elle l'a gâtée beaucoup, émue de ses pauvres petits 20 ans qui couraient le cachet, lui avait descendu ses écrins, des bottes longues et plates de cuir ou de velours, demeurées dans leur neuf, car jamais elles n'avaient servi. Autant dire, la chérie n'allant qu'où son Daniel allait. Et il lui semblait les entendre, ces « ah !» ces « oh !» toute cette joie bruyante d'enfant pauvre qui n'a jamais rien vu. « Que c'est beau, mon Dieu, que c'est donc beau ! Non, cette rivière ! Non, ces étoiles ! Et ce petit mignon bracelet, là ! Ah ! Vous permettez, madame ?»« Si je permets !» Puis les joyaux sortis, éparpillés en gouttes claires au bord d'une table, par farce, à eux deux, ils l'en avaient paré. Et c'était joliment amusant, voltiger autour de mademoiselle, assise bas, la tête bien droite, joliment amusant, piquer des épingles dans ses nattes profondes, nouer à son cou la rivière, accrocher les pendeloques à ses oreilles et les porte-bonheur à ses bras. Aussi, ne se dépêche-t-il point, trouvant un plaisir à promener ses mains d'adolescent le long de cette chair pelucheuse qui sentait bon la verveine. Elle bondissait sous ses chatouilles. Son corps souple se tordait avec des craquements d'étoffe, des bruits de dessous mystérieux. Et la chérie, fâchée, disait « Mademoiselle, mademoiselle, un peu de patience. Si vous remuez tout le temps, comment voulez-vous ?»« Mais !» ripostait mademoiselle, étouffant une violente gaieté. « Ce n'est pas moi, madame, c'est monsieur Dany qui me... »« Qui, vous ?»« Qui me... » Et elle partait d'un grand rire. « Oh bien, si vous riez à présent, nous sommes gentils. Dany, eh bien, Dany, quand tu auras fini de taquiner mademoiselle... » Enfin, le dernier bijou attaché. « Vois donc, Dany, est-elle jolie ? Est-elle assez jolie ? Non, il n'est pas permis d'être jolie comme cela. Allez vous admirer, mademoiselle. » elle ne se l'était pas fait répéter. Courant à la glace, elle s'était campée devant. Superbe, les cheveux pendant jusqu'aux hanches, les bras nus, les épaules nues sous le corsage de grenadine transparente, et toute ruisselante de pierreries, pareille à une brune amphitrite fraîche sortie de la mer, elle avait battu un trille fou, et d'une voix qui lui donnait encore la chair de poule, bien qu'il y eût 9 ans de cela, entonnait l'air de Marguerite. « Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir !»« Brava, brava !» fit quelqu'un derrière Daniel, qui venait de chanter sans s'en apercevoir. Il tourna la tête et entrevit dans le rayon de clarté d'un réverbère quelqu'un qui lui tendait les deux mains. « C'est toi, Levasseur ? Je parie 1 louis que c'est toi. Un baryton qui roucoule des tendresses à la lune, ce ne peut être que ce cancre de Levasseur. Allons, dis donc que c'est toi et que ça finisse. « Et vous ?» demanda Daniel, que ses bravos avaient éveillé comme d'un rêve. « Et toi ?»«
Moi, Bérose, Edgar, secrétaire de la rédaction de la Revue Lorraine, et ton ancien copain à Condorcet. Y es-tu ? Faut-il te parler du père Vintégeol, notre professeur de maths ?»«
Levasseur, vous êtes un cancre. À la haute place. Respirez 20 fois... Copierait 20 fois théorème Tancade.
Ah, il ne te gobait pas beaucoup, Vintégeol, depuis ce fameux jour que tu lui avais servi une équation du second degré en musique, avec 7 bémols à la clé.
Quel potin, mes seigneurs, tu te rappelles ?
Levasseur, explique-moi ce bêtise.
Mais, monsieur, ce sont des bémols.
Ce bêtise ?
Tu avais beau lui répéter que c'était des bémols.
Ah, what ? Mais sais-tu que tu es changé ? Voilà 10 minutes que je te suis, et sans ta manie de rossignoler, le diable m'emporte. Mince de barbe en pointe. Ah, monsieur fait son Henri III. Et pas tant de ressemblance, d'ailleurs. Il ne te manque que les perles aux oreilles. Pense-y. Et qu'est-ce que tu deviens, mon beau ténébreux ?
J'arrive de Rome, répondit Daniel en serrant pour la seconde ou troisième fois les mains du journaliste.
« Tiens, c'est vrai, tu es un prix de Rome. Eh bien, je t'assure que tout à l'heure, tu avais plutôt la touche d'un prix de vin. »
« Tu les aimes donc toujours ?»«
Non, pas toujours, le soir seulement. Mais Calembour ne se risque qu'à la brune, comme les chauves-souris. Et que nous rapportes-tu de là-bas ? La fièvre intermittente ?»
« Non.
Quoi alors ? Un opéra comique ?»«
Fichtre ! C'est une maladie aiguë, ça. Combien d'actes ?»«
1.
Merci.
En 2 tableaux.
Malfaiteur ! Ça s'appelle ?»«
La Naouchni.
Dieu te bénisse. »«
La Bayadère, si tu aimes mieux.
Naouchni en hindoustan. »«
Tu veux dire en éternuant ?» Et ta première visite a été pour Roumiguière, naturellement.
Sera, si tu veux bien.
Comment ?
Je débarque.
Je me disais aussi ce qu'il va te recaler, mon cher, cet ami des jeunes.
Tu crois ?
J'en suis sûr, je connais le pèlerin, je l'ai éreinté.
Où cela ?
Dans la France.
Tu y écris ?
J'y ai fait pendant 6 mois la chronique musicale.
« Bah, tu entends donc quelque chose à la musique maintenant ?»«
Sancta simplicitas. Est-ce que je l'aurais faite si j'y avais entendu quelque chose ? C'était pour m'instruire. De même que l'an dernier, lorsque je traitais la question d'Égypte au débat... »«
Toi, rédacteur des débats ?
Est-ce que je n'en ai pas l'air ?»«
Pas trop.
Parce que devant toi je me dégrafe ?
Laisse donc, j'ai l'air agrafé quand il faut. »
« Veux-tu que je le prenne, mon air débat ?
À moins que tu n'aimes mieux mon air revue Lorraine, ou mon air...
Tu en as tant que cela ?
Autant qu'une tabatière à musique.
Alors tu as quitté les petits journaux ?
Après la mort de mon père.
Les grands, c'est plus deuil.
Qu'est-ce que tu veux, il faut bien vivre.
Où allais-tu ? À la tour de Nesle ? Pas si loin, à l'Élysée. Et toi ?
Moi aussi. Mais avant, j'ai une apparition à faire chez la princesse Vedrovitch. »
Ils marchèrent quelque temps dans l'avenue, causant de choses d'autrefois. Arrivés devant les jardins de l'hôtel Rothschild,
« Bonsoir, » fit Daniel, « enchanté de t'avoir rencontré. »
Et il s'apprêtait à traverser la chaussée où les voitures s'espaçaient, lorsque Bérose, le retenant,
« Ça ne te serait pas égal de venir d'abord chez la princesse ?»«
Je ne la connais pas, ta princesse. »«
Oh, elle l'est si peu, moitié fil, moitié goton. »
Mais ils sont très bien, d'ailleurs, salon d'académicien. C'est à deux pas, rue du Cirque. Je te présenterai.
Non, j'ai envie de lâcher d'un cran la princesse. Hebdomadaire, elle. Tandis que toi,
vrai, ça me fait du bien de te retrouver. Ça me retape.
Et il me semble qu'on m'ôte 40 ans.
40 ans?
Parfaitement. On n'a que l'âge que l'on paraît. Mais quand par métier on est forcé d'en paraître 60 et quelques, c'est le minimum à la revue Lorraine. Et les fausses rides, vois-tu, c'est comme les fausses dents, ça laisse des trous.
Ah, ma foi, tant pis, je ne te quitte plus. Nous allons rire, hein, et dire des bêtises gaies gratis. Ça me changera des tristes qu'on me paie 10 sous la ligne.
Croirais-tu que voilà 3 ans que je n'ai pas mis une cravate de couleur, au propre et au figuré?
Le croque-mort malgré lui.
Joli titre de pièce. Après, nous irons souper avec des demoiselles. Comme du temps que tu étais au conservatoire et moi au tintamarre. Ça te va-t-il?
Et prenant le bras de Daniel, qui ne trouvait que des « oui, oui » à répondre, il l'entraîna. Sous le porche, il lui demanda
« Tu as ton invitation ?»«
Mon invitation ?»
fit Daniel sourdement, et un peu de sueur lui vint au front, car dans sa hâte de sortir, il avait oublié celle que Joseph lui offrait.
« Attends, je dois avoir celle de mon citoyen frère, qui par principe ne met jamais les pieds dans ces endroits-là. Il est au prolétaire, tu comprends, un anarchiste. On l'appelle Bérouge pour nous distinguer.
Tiens !»
Et ayant fouillé dans sa pelisse, Bérose tendit un carton à Daniel.
« Allons, continua-t-il, il s'agit de mettre ses 23 ans au vestiaire et de repincer son air débat. »
Et il fit comme il disait. Sa jolie figure brune, sans barbe, se plissa de rides sourcilleuses, tandis que, tête basse, le plastron et les épaules rentrées, il se déjetait, se voûtait avec des allures grognonnes et chiffonnées de vieux coq. Ils montèrent le perron dans une poussée de monde, s'écrasant entre la double haie des gardes de Paris, l'arme aux pieds, en bottes, immobiles, qui, sur le fond de verdure illuminée, se détachaient, pareils aux personnages géants d'une tapisserie ancienne. Et tout de suite après avoir passé le vestibule des gens, jetaient un salut au président debout, son grand cordon en écharpe, un courant de foule les porta des salons déjà combles jusqu'à la galerie presque vide. C'était comme un repos, un silence dans le tumulte des arrivées, un coin de fête « selected », où rien n'éclatait que les lumières, où c'était un bruit que le tintement d'un ferré d'aiguillette et le frou-frou d'une robe, un vacarme. Le long des murs, quelques groupes assis, des habitués venus tôt afin de se bien placer et d'éviter la cohue. Ça et là, des fonctionnaires, des étrangers, l'air morne. Du petit monde, parfois, passant vite pour tout voir et causant bas par respect des tentures et marchant haut par respect des tapis.
« Qu'est-ce que tu veux faire ?» dit Bérose.
« Mais promenons-nous. »
« Ici, tu ne trouves pas qu'on gèle ?»
Il fait des économies de chauffage, le président. Si nous montions au premier, il y a peut-être un Schuberski.
C'est que...
C'est que? Tu attends quelqu'un?
Non.
Quelqu'une, alors?
Pas le moins du monde.
Ah, scélérat, j'y suis. Celle en l'honneur de qui tu sérénadais tout à l'heure?
La lune. Mais je te préviens, elle ne s'aventure pas ici. Crainte des trous.
Bon.
l'invasion des Huns qui commence.
Quelle toilette! Oh là là! Mes seigneurs, et cette redingote municipale! Fichtre!
Laissons les roses aux rosiers et la belle jardinière au beau jardinier.
Ah, Barral, un confrère.
Bonapartiste, mais un confrère. Tu permets que j'aille lui serrer la pince.
Il s'éloigna un moment, puis revint, ayant distribué des poignées de main de droite et de gauche, accueilli partout et fêté des vieux, des jeunes, des rouges, des blancs. Car ce n'était pas seulement lui qu'on fêtait, lui qu'on accueillait, mais le secrétaire de la rédaction de la revue Lorraine et l'aide de camp de sa directrice, celle qu'on appelait la Grande Française, Madame Hervé de la Moselle. La scène changeait. Quelques minutes avaient suffi à combler la galerie, dont le tapis se noyait de jupes claires, d'habits noirs panachés d'uniformes. Peu à peu, les tentures des bas-côtés, les lignes des sièges disparaissaient, et le flot sans cesse élargi montait dans une clameur puissante de fleuves débordés. Aux deux bouts, il y avait des haltes subites parfois. La tête ou la queue tournant, le centre flottait en panne, puis, le mouvement achevé, reprenait son rang d'une marche ralentie, crevé de ci, de là, par l'afflux d'une porte latérale, qui, d'abord repoussée, s'infiltrait, se mêlait à la masse comme de l'eau. Et telle était la presse maintenant, que de loin, sous la nuée rousse des poussières planant au ras des lustres, on ne distinguait plus qu'une nappe de têtes ondoyantes et sans corps qui roulaient processionnellement.
« Ça t'amuse beaucoup d'être bousculé ?» dit Bérose.
« Ah, on s'en aperçoit que tu arrives de Rome. Tu es d'un gaga. S'il y avait du monde bien seulement. Mais what ? Rien que des robes bretintes et des rafistolages. Pas une femme propre. Allons voir chez les diplomates. »
« Allons, » répéta Daniel, que ce changement arrangeait. Ils retournèrent au salon près de l'entrée. Et, après un coup d'œil jeté de biais dans le boudoir des ambassades, devant la porte duquel un huissier se tenait, le journaliste offrit à Daniel de s'asseoir.
« À moins que tu n'aies fait vœu d'attendre debout la dame en question, » dit-il, surpris de l'air contraint de Daniel.
Mais deux chaises libres, il n'y en avait plus maintenant contre le mur, parmi les tas de gens assis serrés comme au théâtre. Enfin, un couple s'étant levé pour sortir, ils s'installèrent à sa place.
« Nous sommes aux premières loges, » dit Bérose. « Ainsi, tu ne pourras pas la manquer. »
Daniel haussa les épaules.
« Tu y tiens ? Rends-moi donc plutôt le service de me nommer les gens qui passent. Je ne connais plus personne, moi. Cette grande belle dame brune, en rouge véronaise, qui a un sourire de reine outragé.
C'est Madame Street, la belle Madame Street.
Tu as bien lu son nom dans les journaux. Spécialité pour Altesse de passage. Ce que nous appelions au débat un demi-castor, parce que, pas le moindre pollux, légitime s'entend.
Oh, des autres. Toujours en Amérique, le légitime fabrique des machines à coudre, je crois. Son contrat en a besoin.
Elle est bête comme un premier pari, mais très riche, très reçue. Le plus bel hôtel et le plus beau flanc des Champs-Élysées.
Un flanc aux pommes.
Tu le connais ?
Approximativement. Nous sommes d'une chasteté à la revue Lorraine.
Même toi ?
Même moi.
Vous autres journalistes ?
Quoi, nous autres journalistes ? C'était bon autrefois. Autrefois, nous faisions la fête.
Nous faisons des reports aujourd'hui. C'est meilleur pour la santé.
Et le ménage qui suit ? Demanda Daniel, qui, l'esprit loin, d'un regard anxieux, dévisageait les femmes à mesure qu'elles défilaient, ayant gardé aux lèvres un peu de leur souriant salut d'arrivée.
« Le petit chauve et la grande majestueuse ?»«
Comte et comtesse d'Audibert, sénateur centre-gauche, ex-ministre sous tiers, pas le sou, fourrent leurs titres et leurs particules dans leurs poches, pour le redevenir, ministre, mais ça ne prend pas. Il nous faut à présent de la démocratie de premier choix, de la démocratie de derrière les cagots, dirait mon cher petit sans culotte de frère. Tiens, voilà justement Roumiguière et sa béquille. Veux-tu que je lui parle de toi ?
À quoi bon ?
Je t'assure qu'il m'adore depuis que je l'ai bêché. Il prétend que j'ai la béchamel, à miel. Fichtre, si la patronne m'entendait. Que diable Roumiguière vient-il chercher ici ?
Des rossignols ?
Le fait est...
Oh, regarde donc !
Non, regarde-moi donc ce pot de groseille, on en mangerait. Et ces gants à deux boutons. Petite folle, va. A-t-on idée de jeter ainsi les boutons par les fenêtres? Comme si un n'aurait pas suffi.
Mais ce n'est pas pour rien qu'on est la femme d'Agénor Doucerin, député de Gerville, ministre de l'Instruction publique.
C'est lui, ce petit homme glabre, avec des cheveux plats et des lunettes?
Oui, un myope,
mais un roublard, mon cher, cette excellence à tout faire, qui, après avoir été un peu avocat, un peu ministre du commerce, un peu ministre de la justice, trouve moyen de rester 11 mois à l'instruction.
C'est effrayant, 11 mois.
Ce n'est pas de l'instruction, ça, c'est de l'incrustation.
Il attend pour s'en aller d'avoir un siège au Sénat.
Il l'aura, celui de Prévost-Leclerc, qui est mort tout exprès l'autre semaine. Le cric et blond qui l'escorte et qui a ce petit air Mazarin, c'est Marcelin Panel, son sous-secrétaire d'État. Le joli Marcelin, l'ami des femmes. Entre-temps, Béraud se levait, l'air très digne, marchait 3 pas vers les personnes désignées, puis, s'étant incliné d'un geste mécanique, il se met encore quelques « shakens » dans la foule. Et venant se rasseoir, il reprenait son rôle de cicérone.
Le chevelu, là, c'est Motin, le romancier.
Qui imite Daudet ?
Oui, tu vois, il a déjà le monocle.
Ici, Stevens, monsieur de Lesseps. Madame Chérène, celle qui a le salon politique, la concurrence au nôtre. Le docteur Fournier, l'auteur du fameux amendement.
Ah, le comte Aragny en d'or, le beau des beaux, attaché à l'ambassade de Hongrie.
Ils se fâchent, les Hongrois, quand on dit l'ambassade d'Autriche.
Béraud s'arrêta court, en voyant faire un sursaut à Daniel. Puis il murmura à part lui « Quelle gaffe !»
Mais, pas démonté pour si peu de son solide aplomb de journaliste, il regarda encore Daniel, qui paraissait absorbé dans une contemplation soucieuse du Hongrois. Et il s'en allait poursuivre, lorsqu'il aperçut dans la foule, qui refluait de la galerie, une petite femme blonde, pas belle, très grasse, très pétulante, et le nez très en l'air, des diamants, des fleurs fichées par paquets le long de sa robe de soie verte, garnie de dentelles noires. Elle s'approchait, en se remuant beaucoup au bras d'un long personnage rousseau de tournure anglicane, une plaque d'ordre sur le côté de l'habit.
« Tiens, dit-il, la patronne avec le baron joli.
La baronne, tu permets. »
Il se mit debout, heureux de cette diversion.
« Comment donc ?
Alors, au plaisir. Viens donc me voir à la revue qu'est Voltaire. J'y suis tous les jours, de 4 à 7. »
Là-dessus, s'étant vieilli encore et voûté davantage, il alla retrouver sa directrice, qui l'accueillit par ces mots criés d'une grande voix turbulente « Vous n'avez pas vu Orloff ? Voilà 1 heure que nous courons après !»
Daniel aussi s'était levé, mordu au vif par cette annonce fortuite, cette espèce de présentation soudaine de l'homme qu'on donnait pour amant à la femme de son père. Et maintenant qu'on le lui avait annoncé, maintenant qu'il l'avait vu, avec sa fière mine, sa moustache d'un blond ardent, augmentée de favoris à la mode de l'empereur roi, maintenant qu'il croyait se rappeler quelque chose de malin dans l'accent de Béraud, une terreur l'environnait.
« Tu mens, ce n'est pas vrai » bégaya-t-il, les poings si fermés que les ongles lui entraient dans la chair.
Pourtant, un doute lui restait, et il s'y attacha. Bérose n'avait rien dit, enfin, et bien qu'il se répétât que le journaliste ne pouvait parler devant lui, tout de même, ce rien lui paraissait une sorte d'espoir.
« J'aurais dû lui demander, » pensa-t-il.
« Oui, lui demander. Peut-être était-il encore temps. » Il s'élança, mais sans hâte, et comme avec la peur de le revoir. Puis, machinalement, il regarda du côté par où le comte était parti, lorsque Bérose le lui avait montré. Et, l'ayant vu arrêté au milieu de la galerie, l'idée lui vint de le suivre. Le suivre était encore un moyen de savoir. D'un pas hardi, il se jeta dans la mêlée, jouant des coudes, les yeux fixés sur le Hongrois, dont le dolman, clair, paraissait et disparaissait parmi les fracs et les robes. Un instant, il le manqua, le comte s'étant englouti dans une porte. Alors il se lança comme un fou, bousculant les gens. Une femme qu'il piétinait se retourna. « Mais monsieur, je vous en prie, vous êtes sur moi !» Un officier lui cria. « Faites donc un peu attention, s'il vous plaît !» Et il n'entendait rien, tout à cette envie brutale qui le poussait en avant, le rejoindre. Il n'en était plus qu'à quelques enjambées, séparé seulement par une ligne somptueuse d'officiers exotiques, quand il se sentit happé au bouton, et une voix de roquet, hargneuse et pointue, fit à son oreille « Eh bien, mon neveu, est-ce qu'on ne se connaît plus ? Parce que nous sommes brouillés avec ton père, ce n'est pas une raison. » Il se retourna. C'était son oncle, un grand homme rasé, avec un teint jaune d'hépatite et des cheveux gris roulés, le ruban vert du lion et du soleil de Perse sous la cravate, et aussi raide, aussi luisant, aussi sec que la brochette de croix qui étoilait son revers d'habit. « Ta tante est là-bas, » poursuivit le médecin après quelques froids compliments débités d'un air pion qui ne le quittait jamais. « Là-bas, dans le petit salon, à côté des salles de danse, je vais t'y conduire. » Et, de vive force, accrochant le bras de Daniel, il commença à le questionner. « Alors, te voilà revenu ? On ne peut pas dire que tu nous aies accablés de visites en 3 ans. Tu étais donc bien occupé. Mais quel air as-tu, petit Mozart ? » continua-t-il, employant un sobriquet qui avait valu à Daniel ses premiers succès d'enfant doué. « Toujours tes névralgies faciales ?» Daniel répondit un « oui » tremblant de colère, car il venait de perdre de vue le Hongrois. Puis il se laissa emmener. Cependant, son oncle s'informait, poussait des mines. Pourquoi donc avait-il prolongé son séjour à l'académie ? Les musiciens n'y faisaient que 2 ans d'habitude. Est-ce que ce ne serait pas par hasard à cause de sa belle-mère ? Ils avaient pensé cela depuis, ne le voyant pas revenir. Certes, comme beau-frère, il ne se permettrait pas de médire de Jeanne. Mais enfin, une chose certaine, c'est qu'elle n'était pas de leur monde, et que ça avait été un coup que son entrée dans la famille. « Ça marche-t-il, le ménage ? » dit-il en conclusion. Et Daniel ne répondant pas, il finit « Oui, je sais, coussi, coussi. » Après tout, Ferdinand l'a voulu, ça le regarde. Ils étaient fâchés depuis le mariage, à propos de rien. Une question de place au dîner de contrat qui avait fini par une discussion politique. La vraie cause, c'était le dépit de Monsieur Eugène, le cadet. Médecin du chat de Perse et de plusieurs autres souverains sur ses cartes, en fait, pauvre petit consultant de la rive gauche, auteur de traités pathologiques sur les maladies des femmes, qui ne lui rapportaient rien que des rubans, la mort de sa belle-sœur lui avait donné un violent espoir de fortune. Il se voyait déjà ouvrir, rue de la Paix, un cabinet de spécialistes, avec voiture, campagne, etc., conduire aux eaux de Marienbad, Madame Gênes, à qui elles étaient conseillées, marier ses filles, enfin, dans la noblesse, où il ne laissait que d'avoir des prétentions, ayant épousé une demoiselle Le Tannet de Pontblain, échangeant volontiers l'article de son nom en particules. Autant de rêves anciens, dont il assaisonnait l'austérité de sa vie présente,
et que réaliserait un jour l'héritage de Ferdinand. Héritage certain, vu l'âge et la complexion goûteuse de celui-ci, la santé précaire de Daniel, fils d'une mère phtisique, et que personne ne pouvait songer à marier. D'ailleurs, il y veillait, colportant partout, en les exagérant, ses malaises. « Le pauvre garçon, il a des tubercules dans la tête, vous savez. » Et il concluait « C'est toujours héréditaire, malheureusement. » Aussi, sa fureur fut-elle grande, lorsqu'il apprit que ce frère convolait à un âge où l'on a des enfants, c'est fatal. Il essaya d'y mettre le holà, s'efforçant de persuader son aîné que les 26 ans de la belle Jeanne Félisa n'étaient point le fait d'un sexagénaire, pas plus que la fille naturelle d'une chanteuse, la Kreutzer, reconnue, il est vrai, par l'union de celle-ci avec le sculpteur Félisa. L'auteur de Doris n'était digne d'un notable, ancien juge consulaire, fondateur et président du conseil de la société des filatures et tissages de Gerville. Ce n'était même peut-être point sans raison que le négociant avait cru reconnaître la main de son frère dans certaines lettres anonymes, où le passé de sa future femme, ce passé de misère, mais de misère portée haut et droit, était si odieusement sali et calomnié. Rien n'y fit, et la noce eut lieu. Depuis, les enfants n'étant pas venus, et Daniel n'étant pas mort, à la honte de son diagnostic, le médecin avait changé ses batteries, et, se relâchant pour une fois des sévérités coutumières d'une méthode d'éducation puritaine, il avait autorisé sa fille aînée, Cécile, à correspondre avec son cousin, dans une idée de rapprochement, et pourquoi non, de mariage. Ils traversèrent sans causer une salle de danse toute blanche, tendue d'un vélum bas, où, surveillés par des mères qui bâillaient au bord de banquettes à crépines, de maigres quadrilles glissaient sur la mesure relevée d'un orchestre militaire. Arrivés à la porte du salon tapissé de gobelins d'une fine couleur d'amarante, le médecin fit, un peu gêné, « Cela doit te surprendre de me voir ici. Tu connais mes opinions. » Puis d'un ton amer, il s'excusa. « Mais que veux-tu, quand on a des filles à marier, et pas les millions de ton père ?»« Ah, les voilà » ajouta-t-il avec un geste du bout de son claque. Et Daniel aperçut sa tante, une petite femme souffreteuse et blêche, aussi fripée, aussi noire que le velours de sa robe, et qu'un grand nez de race sauvait seul de l'effacement. Elle était assise entre ses filles, Cécile et Blanche, deux blondines, pas jolies, mais charmantes, mises pareilles en tulle bleue, l'aînée plus échancrée d'un doigt que la cadette, et portant au col un petit médaillon d'or, comme signe distinctif de l'aînesse. À la vue de leur cousin, leur visage pâlot de fleurs d'ombre se colora d'une rougeur. Elles se levèrent ensemble d'un grand bond de joie et allèrent se jeter à sa rencontre, lorsqu'un coup de menton de leur père les changea en statue. « Dieu, quelle mine tu as, mon pauvre enfant !» remarqua, sitôt les bienvenus échangés, Madame Gêne, qui, dolente, était restée dans son fauteuil, un reste de couche laborieuse l'empêchant de se tenir debout. Mais, son mari l'ayant fixée, elle rentra sous terre et demeura muette, se demandant quelle bêtise lui était échappée. « Je te permets d'inviter Cécile, » fit le docteur. Et celle-ci envoya à son cousin un tel sourire des yeux, de ses jolis yeux couleur de campanule, que des cheveux cendrés, coiffés en sages bandeaux, ne parvenaient pas à les dire, qu'il se résigna et l'emmena dans la salle de danse, où la famille les suivit. L'orchestre jouait une mazurka. « Veux-tu la valser ?» demanda Daniel. « Oh non, papa nous le défend, c'est déjà bien joli la mazurka » dit-elle d'une voix timide. Mais lorsqu'ils furent partis, mêlés au couple qui tournait dans la salle plus pleine, elle s'enhardit, l'interrogea. « Était-ce beau, Rome ? Et la Villa Médicis? Avait-il bien travaillé pendant ces 3 ans et 3 mois? Car elle savait les mois. Et si elle l'eût osé, aurait dit le nombre de jours et de semaines. Rapportait-il beaucoup de compositions? Ensuite, elle lui conta qu'elle s'était mise à adorer Mendelssohn sur ses conseils. Et elle s'enflammait, non sans esprit ni gaieté, lorsqu'elle était bien loin des terribles coups de menton paternel, vantant l'ouverture de Ruy Blas, la symphonie en la, le rondo capriccioso. Daniel, qui d'abord avait répondu tout juste, se laissait reprendre petit à petit par ce charme doux de cousinage. Ils s'étaient beaucoup vus autrefois, du temps que la chérie vivait, et des souvenirs communs faisaient de communes pensées. Puis, elle paraissait si heureuse de danser cette mazurka. Quand il lui demandait « Veux-tu t'arrêter ?»« Oh non, à moins que tu ne sois fatiguée, » répliquait-elle. Et de se renvoler, jamais lasse, d'un vol craintif d'oiseaux habitués à la cage. Comme il passait devant une glace, Daniel y entrevit le Hongrois, qui valsait avec une grande femme d'un blond de feu, dont il n'apercevait que la nuque haut coiffée à la grecque et un bout d'épaule laiteuse sortant d'un long habit directoire. Un vertige le prit. Il faillit tomber. « Qu'est-ce que tu as ? » dit Cécile. « Est-ce que tu veux te reposer ? On voit bien que tu peux danser tant que cela te plaît, toi !» ajouta-t-elle avec un fin petit rire. Ils s'adossèrent à la balustrade de l'orchestre et demeurèrent silencieux. Mais elle, ayant suivi le circuit de ses yeux par la salle, fit tout à coup « Tiens, ma tante, qui valse là-bas. Est-ce que tu l'avais vue avant de venir ?»« Non, » dit Daniel, « j'arrive. »« Et tu es accourue à l'Élysée vite et vite ? C'est drôle !» Et étourdiment, elle lâcha « Tu savais donc que nous y étions ?» Il ne répondit pas. Alors elle reprit « C'est bien ennuyeux que papa soit fâché avec mon oncle. Nous n'allons plus nous voir maintenant. »«
Ce n'est pas une raison, » fit Daniel.
L'esprit comme le regard au bout de la salle où un seul couple tournoyait. Les autres s'étaient arrêtés, lui laissant la place libre. Autour, un cercle s'était formé. Des salons voisins, de partout, on était accouru à ce mot qui avait rebondi de bouche en bouche. « C'est la belle Madame Levasseur qui valse avec le comte Aragny !» Et c'était un charme que ce duo dansait d'une grâce fière, dans une admirable harmonie de mesures, de mouvements, de pensées, par ces deux êtres rayonnant d'une splendeur de jeunesse et si assortis de taille et de figure et de couleur. Elle, sans bijoux, parée de sa chair seulement. Lui, moulé par le dolman liseré d'or, où s'agrafait une peau de léopard en sautoir, qu'on eût dit d'un groupe fait d'idées par quelque artiste dieu. Peu s'en fallut qu'on applaudît, lorsque, se voyant regarder, ils finirent et regagnèrent la galerie lentement, traversant les groupes avec la majesté sereine d'un couple royal acclamé.
« Tu la trouves bien belle, n'est-ce pas ?»
dit Cécile, qui avait perdu un peu de ses couleurs. Daniel, sans répondre, balbutia quelque chose comme « Pardon, Cécile, il faut, vois-tu, il faut… » et disparut à leur suite. Toute songeuse, elle revint à ses parents et inventa une histoire afin de décharger son cousin. Il l'avait prié de l'excuser près d'eux. Il avait dû partir, ne se sentant pas bien. Toujours ses névralgies faciales, observa le médecin. Et la petite Blanche s'étant affaissée de chagrin, prête à fondre, il lui claqua une chiquenaude dans le dos avec un « Droite, mademoiselle !» ce qui, du coup, fit jaillir ses larmes. Cependant, Daniel avait gagné la galerie derrière sa belle-mère, la suivant pas à pas, dans le sillon de froufrous et d'odeurs qu'elle laissait. Près de la sortie, le Hongrois la quitta pour demander sa voiture et elle resta seule debout au milieu du salon vide, mettant son reflet de statue au fond de chacune des glaces.
Daniel, tapi dans une porte, la regardait. Elle n'avait pas changé. Sauf la couleur de ses cheveux, qu'elle teignait en fauve aujourd'hui, c'était toujours Mademoiselle. Sa petite tête de Victoire antique, sa même coiffure, son bandeau unique et crépelé, pareil à une aile d'oiseau, balayant de biais le sourcil, largement peint sur des yeux veloutés verts. C'était toujours ses mêmes triomphantes épaules et son corps prestigieux de chasseresse, que la redingote couleur de chair, la double bandoulière d'œillet naturel entrecroisée sous les seins, le tablier tendu au ventre et dessinant les cuisses, faisait nu. Ce ne fut qu'un instant. Il entra du monde, un personnage de l'annonciature, en bas violet, son chapeau sous les bras, piquant et fringant, qui s'arrêta devant elle. Et tandis qu'il la saluait, il se balançait sur ses pointes, plongeant dans la décolleture. D'autres hommes vinrent lui présenter leurs hommages. Un qu'elle appela Monseigneur, un autre Monsieur le Ministre, des généraux, des députés, un cercle, une cour où elle trônait, à son aise et souriante, d'une telle hauteur de beauté qu'elle semblait plutôt quelque divinité de l'Olympe tombée parmi ses fantoches terrestres. La foule s'ouvrit. C'était le président qui s'approchait, avec un capitaine de sa maison. Il lui baisa la main. « Madame, » dit-il, incliné, et se relevant. « Quoi, vous partez déjà ?»« Je suis un peu souffrante, » fit-elle. « Je n'ai même pas eu le courage d'attendre les amis qui m'ont amenée. » « Est-ce que vos gens ne sont pas là ?»« Voyez donc, mon cher Guillaume, » dit-il à l'officier demeuré un peu en arrière. Juste à ce moment, Aragny parut, précédant un valet de pied qui portait une pelisse de loutre et des dentelles. Elle se tourna alors, salua d'un beau coup de tête assoupli le président et tout le monde, puis elle sortit lentement au bras du comte, tandis que le myope monsieur Doucerin, ministre de l'Instruction publique, se penchant vers un huissier de service qu'il prenait pour son secrétaire d'État, lui demandait non sans mélancolie si ça tenait toujours le collage.